Le Monde, aujourd'hui, avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, débat, actualité politique avec deux invités, Stevie Fortin et Guillaume Rousseau. Le Monde aujourd'hui en direct, vendredi 28 avril. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, Julien Corona au micro et Daniel Fortin à la réalisation. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux invités. Vous avez une double ration d'actualité politique. On n'oublie pas, bien sûr, l'émission Société de Nick Payne. Bonjour, Steve Fortin. Comment ça va?
Très bien, vous?
Ça va super bien. Et tu es aussi avec Guillaume Rousseau, un habitué du programme. Bonjour, Guillaume.
Bonjour Julien.
Donc avec vous, on va discuter tous les deux. Ben, on a beaucoup d'actualités à traiter dans ces 30 minutes. Commençons directement avec le plan de protection et de valorisation de la langue française qui a été annoncé par le gouvernement fédéral. On aurait pu se féliciter de 4,1 milliards de dollars qui ont été annoncés par le ministre pour les langues officielles, Jeannette Petitpas-Taylor, et par le Premier ministre Justin Trudeau. Mais néanmoins, dans ces 4,1 milliards annoncés pour l'ensemble des communautés francophones au Canada, avec une reconnaissance que la seule langue officielle en danger en ce moment au Canada, c'est le français. Il y a 137,5 millions de dollars sur 5 ans qui sont destinés à la communauté anglophone au Québec et ça fait grincer beaucoup de dents, dont celles du ministre Jean-François Roberge au Québec. On peut commencer si vous voulez, Guillaume, Steve, qu'est-ce que vous pensez de cette somme? Est-ce que c'est normal quand on sait c'est dans un plan de valorisation des langues officielles, mais néanmoins, quand on prend en compte la communauté anglophone, mais dans l'ensemble canadien, ce n'est pas vraiment une minorité. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Oui, ben en fait, moi je pense que c'est très décevant parce que c'est l'approche traditionnelle d'Ottawa, de dire on aide les francophones des autres provinces, on aide les anglophones du Québec, comme si c'était comparable comme situation, comme s'il n'y avait pas d'institutions extrêmement prestigieuses pour les anglophones au Québec et beaucoup moins d'institutions pour les francophones des autres provinces. Donc c'est l'approche traditionnelle, mais dans le livre blanc de Mme Joly, déposé il y a à peine 2 ans, on avait annoncé l'inverse, on avait annoncé un virage, on avait annoncé que suite à des résultats au niveau des recensements. Exactement. Donc, le gouvernement fédéral prenait acte du déclin du français partout, y compris au Québec, et avait donc promis en quelque part que le fédéral allait maintenant aider la langue française, y compris au Québec. Du moins, c'est ce à quoi on s'attendait. Évidemment, on s'attendait à ce que, dans le pire des cas, le fédéral continue à aider, oui, l'anglais, oui, les organismes, les anglophones pour des services, donc forcément pour de l'anglicisation, mais qu'en même temps, il allait aussi financer des organismes pour la défense, la promotion de la langue française. Donc, on s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ce que le fédéral devienne 100% pour le français au Québec et laisse un peu de côté les communautés anglophones, mais on s'attendait à ce qu'il en fasse plus pour le français. Or, il y a à peu près rien pour le français spécifiquement au Québec, puis il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Vous parlez du 137 millions, en fait, ça, c'est juste une partie de l'argent neuf, parce que même si on calcule, c'est probablement plus près de
830 environ.
L'autre chiffre qui circule, c'est 800 millions, parce que si on prend le 1, je pense que c'est 1,4 d'argent neuf, donc mais il y a 4,1 d'argent au total, donc là-dessus, 20% pour les anglophones, ça nous mène pratiquement à 1 milliard, donc c'est une somme extrêmement importante qui va profiter à l'anglais au Québec, alors que c'est le français qui a besoin d'aide d'urgence, alors c'est vraiment très décevant comme plan d'action.
Steve, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Ben, comme tout le monde, tu sais, étant résident et depuis très longtemps en Outaouais, on voit exactement comment tout ça, ça s'organise. Puis, quand on parle de l'anglicisation ici, ben, il y a des groupes qui sont très, très actifs, et qui souvent vont bénéficier de subsides fédéraux, et qui sont ici et qui vont, par exemple, se battre contre les lois qui sont votées au Québec, et qui, eux, en tout cas, ne vont pas rechigner à voir que
Des financements arrivés.
Donné à la collectivité anglophone. Puis n'oublions pas autre chose aussi, c'est que, tu sais, même si le gouvernement fédéral puis le gouvernement de Justin Trudeau a dit non, OK, on admet, là, l'anglais n'est pas en danger, puis ne sera pas en danger en Amérique du Nord. Pendant ce temps-là, il y a comme un double discours, une espèce d'hypocrisie qui s'installe, c'est que, en dépit du fait qu'on sache ça, puis surtout en dépit du fait que tous les indicateurs pointent vers une anglicisation rapide de pôles d'importance au Québec, notamment, oui, la métropole, mais ici en Outaouais, par exemple, où on a des municipalités, des villes entières où ça parle presque plus français.
Des constructions d'écoles, on voit beaucoup d'écoles privées, en plus l'utilisation de la construction du réseau privé uniquement anglophone pour permettre ces anglicisations.
on a vu quelque chose aujourd'hui dans le Globe and Mail, là, puis j'invite les gens à aller voir ça, c'est absolument sidérant. C'est la facilité avec laquelle des commissions scolaires anglophones, parce qu'il y a encore des commissions scolaires, sont capables de simplement passer à côté des lois de la langue, de la loi sur les langues officielles, la loi 96, puis pour protéger le français ici, puis dire c'est pas grave, tant pis pour la loi 101, puis c'est hyper facile pour des parents, par exemple, de nouveaux arrivants ou de francophones qui tiennent absolument envoyer leurs enfants dans des écoles primaires ou secondaires en anglais. Puis on apprend là que c'est rien. Il n'y a rien de plus facile que ça. Il y a une faille dans la loi, puis on l'exploite, puis ensuite, en plus, on va moi, je l'ai vu ici, là, dans la région en Outaouais. Il y a littéralement des directions d'école qui disent, voici, on fait de la publicité, puis on dit, voici, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez tout à fait envoyer légalement vos enfants, même si vous êtes francophone, puis que vous seriez habituellement, là, ce serait pour vous la responsabilité de les envoyer dans une école francophone, bien sûr. Non, c'est facile, on le fait. Puis cette
utilisation-là,
se fait au vu et au su de tout le monde.
Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ça? Surtout que tu as bossé sur la loi 96. Est-ce que le gouvernement devrait revenir sur ses failles? Mais au-delà, pour rester dans le sujet du plan fédéral, on voit que le ministre Roberge s'est dit qu'il est déçu de voir l'absence de mesures concrètes. Est-ce que ça serait à lui et à son gouvernement, surtout qu'ils sont pris un peu dans une spirale négative, un peu de vraiment mettre le pied à l'étrier et de forcer la création d'un véritable plan, parce que c'est encore possible. La loi, en plus, en elle-même, on attend la loi de modernisation sur les langues officielles, elle n'a pas encore été votée, ça serait possible de forcer avec le vote de la loi la création d'un vrai plan.
En fait, c'est ça. Effectivement, vous faites bien de faire le lien entre le plan d'action puis le projet de loi C-13 sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, parce que ce qui s'est passé, c'est que dans le cas de C-13, comme c'est un projet de loi, c'est le Parlement qui décide. Or, au Parlement, les libéraux sont minoritaires. Donc, ils ont été obligés de faire des concessions au Bloc, dans une moindre mesure aux conservateurs, pour faire passer leur projet de loi, là, particulièrement l'aspect là, qui va s'appliquer aux entreprises privées de compétences fédérales. Donc, de s'inspirer de la loi 101 pour s'assurer qu'il y a le droit de travailler en français dans les entreprises privées de compétences fédérales. Donc, là-dessus, ils ont fait des compétences au Québec, mais un peu parce qu'ils étaient obligés par leurs circonstances de gouvernement minoritaire. Mais pour ce qui est du plan d'action, ça passe pas au Parlement. C'est de l'exécutif, c'est le gouvernement qui décide. Et là, il en profite pour vraiment revenir à une politique de promotion tout azimut de l'anglais au Québec. Donc, c'est ça aussi qui est décevant, parce que il avait négocié le projet de loi avec les oppositions, avec le gouvernement du Québec, mais là, son plan d'action, il a fait ça complètement. Il y a eu des consultations des Canadiens et tout, mais pas du gouvernement du Québec, pas des partis d'opposition. En tout cas, il n'y a pas eu de compromis véritable là-dessus. Et là, ça vient comme contredire ce qui avait été fait plus tôt en termes de progrès pour le français au Québec. Donc, et là, le gouvernement du Québec, je pense que sa réaction était mesurée. Je ne sais pas si à quel point le ministre avait eu le temps de lire tout le plan d'action avant de réagir. Je pense qu'il a été prudent, mais que plus on le lit, ce plan d'action-là, plus on est déçu, plus on voit qu'il y en a beaucoup pour l'anglais au Québec. Et là, de dire, ce que demande le ministre, c'est peut-être pas fou. En quelque part, il dit, il pourrait avoir beaucoup de sommes pour les communautés anglophones au Québec, mais ça devrait se servir à la francisation. Ça devrait servir au français langue seconde pour les anglophones, ou à la francisation des immigrants. Donc ça, je trouve ça intéressant. Peut-être qu'il devrait ajouter à ça la question de Montréal. Moi, je suis extrêmement déçu que le fédéral, qui nous dit qu'il veut aider les communautés francophones et anglophones minoritaires, finalement ne considère pas les francophones de Montréal comme minoritaires, alors qu'ils le sont. Ils sont sous la barre des 50%. Alors ça aurait été intéressant comme autre revendication de la part du gouvernement du Québec.
Mais Steve, quand on voit la réaction de Roberge, est-ce que ces façons de parler, on sent à nouveau, encore une fois, une CAQ qui est prise dans son discours entre les deux, entre le nationaliste, le souverainiste, tout ce genre d'idées, qui essaye de se jouer à cheval entre les deux, qui se retrouve bloqué et qui ne peut pas agir tel qu'il le devrait en tant que partie de gouvernement de la seule province francophone en Amérique du Nord?
Ça, c'est l'espèce de paradoxe d'une coalition, parce qu'une coalition entre fédéralistes et souverainistes ou nationalistes affirmés, par définition, ce sera toujours les fédéralistes qui auront le dernier mot là-dedans, parce que on l'a vu là quand on était en train de négocier, quand on étudiait par exemple le projet de loi 96, les amendements et tout ça. Il y avait pas Simon-Jolin Barrette à l'époque, il n'avait pas la latitude d'aller bien loin avec ça. Puis dès qu'il y avait des mesures là qui étaient on va parler par exemple de la loi 96 au Cégep, ouais. Ben, ça pouvait pas passer, ça ne passait pas parce que dans l'ADN des plus fédéralistes qui ont joint la coalition de François Legault, ben c'est pour eux non avenu, c'est impossible,
ouais, le crime
c'est
de dans la
condition profonde. Mmh. Puis, si on est dans une dynamique comme celle-là, ben en fait, il n'y a plus de nationalisme qui tienne. Parce qu'un nationaliste qui va être cadenassé par les plus fédéralistes d'une coalition, ben par définition ou intrinsèquement, ben ça devient finalement des gens qui les nationalistes ou les souverainistes, parce qu'il en reste encore dans ce parti-là, mmh. Ben ils sont toujours à la merci de ceux qui vont dire, ben non, pas de mesures comme ça, parce que ça va trop loin. Pour la loi 21, c'était la même chose. Puis, tu sais, c'est un peu dommage, parce que il y avait une lancée, il y avait une façon pour Simon-Jolin Barrette, alors que c'était son dossier, il y avait une façon pour lui de faire avancer ça. Mais dans son dos, puis moi, je peux vous le dire, parce que j'ai eu des discussions avec de ses collègues qui sont députés ministres, puis on me le disait carrément, non, il va trop loin. Puis, il y avait des gens carrément qui étaient agacés par son militantisme. On disait, mais pourquoi il va pas au PQ si affirmé que ça? Fait que dans un contexte comme celui-là, ben, on sera pas étonné que finalement, ben, ce nationalisme-là, c'est un nationalisme de façade, puis qu'il n'y a pas de réelles mesures contraignantes ou structurantes pour dire, ben, on va stopper le déclin de l'anglais, le déclin du français, puis cette espèce d'ancien inexorable de l'anglais à Montréal. Parce que si on voulait le faire, on sait, les mesures sont là, elles sont connues. Ouais. Puis il y a des auteurs comme Frédéric Lacroix qui se consacrent à ça. On les connaît de toute façon, ces mesures-là. Mais on ne les mettra pas en place parce que il y a à la CAQ, donc tout un pan de ce parti-là qui est allergique à ce genre de mesures-là.
Guillaume, si tu veux conclure sur le sujet, on passera au sujet suivant ensuite.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un plan d'action du gouvernement du Québec à l'automne. Puis là, évidemment, on s'attend pas à des mesures législatives parce que, bon, ils viennent d'adopter la loi 96, ça serait surprenant qu'ils arrivent avec un autre projet de loi, du moins à court terme. Donc, ce sera des mesures autres que législatives. Donc, on peut à la limite réglementaire, mais même ça, donc ça va être plus de l'ordre du programme et de l'ordre notamment du budgétaire. Et là, ça va être intéressant parce que si le gouvernement nous arrive avec, je sais pas moi, 50 millions, ben tout le monde va comparer son 50 millions aux 800 millions que l'anglais vient d'avoir au Québec du fédéral. Donc là, ça met la barre vraiment très haut pour que le gouvernement du Québec arrive avec un plan d'action à l'automne qui, donc là, je pense que le ministre Roberge pourra peut-être travailler avec le Trésor, avec le ministère des Finances pour aller chercher davantage de marge parce que forcément, il va y avoir une comparaison entre le plan d'action fédéral et du Québec, ce qui va être un petit peu injuste pour le gouvernement du Québec qui est pratiquement une espèce de premier plan d'action du genre, alors que le fédéral, ça fait longtemps qu'ils font ça, puis l'argent s'accumule, puis c'est juste 1,4, juste entre guillemets, 1,4 milliards d'argent neuf, là, le reste, c'est de l'argent qui était déjà là, mais quand même, donc la comparaison va être cruelle, je pense que ça force le gouvernement du Québec à aller plus loin, notamment en termes budgétaires, avec son plan d'action de l'automne prochain.
Quand je vous ai proposé de venir à l'émission, on avait discuté de parler sinistre, troisième lien, ce genre de choses, mais avant de vous entendre parler sur ce sujet, il a pu être annoncé ce matin qu'Alexandre Trudeau se rendra en commission parlementaire sur l'enquête sur les ingérences étrangères et chinoises dans notre politique, la politique fédérale. C'est quand même assez intéressant parce que ça me remet, avec les différents passages devant cette commission, ça remet un peu en perspective le poids et l'importance des nombreuses fondations politiques qui existent. On a la fondation Trudeau, on a la fondation Fraser du côté conservateur, mais concentrons-nous sur cette fondation Trudeau-là. Est-ce que vous pensez que c'est, surtout quand on voit aussi d'autres réactions, par exemple Stéphanie Chouinard qui a fait un très long post ce matin sur Twitter, qui est une fellow de cette fondation, mais quand on voit un peu ces différentes réactions défensives pour la plupart face aux attaques sur la fondation Trudeau, est-ce que vous pensez qu'on est proche de la fin ou d'une réorientation de la mission de ce genre de fondation? Steve, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Ben oui, on parle, tu évoquais Fraser, mais moi je dirais aussi Manning, au Canada anglais, puis tu sais, j'ai beaucoup suivi ce dossier-là, mais de la lorgnette des chroniqueurs anglophones, les textes qu'on a écrits partout dans le Canada anglophone.
On en a peu parlé au Québec de tout ça, hein? Au Canada anglais,
oui, c'est vrai, mais moins. Mais imaginons, par exemple, que à un moment donné, on commence à placer la lorgnette sur Lirail et Daniel Turp.
Ouais,
et puis là, tout à coup, ben là, ah, ils sont, y a, un gouvernement de Paul Saint-Pierre-Plamondon du Parti québécois, ils n'ont dit ça. Puis, tu sais, ce serait pas long qu'on en entendrait parler parce que il faut jamais oublier que ce type de fondation-là, qu'on l'admette ou pas, ou qu'on tente d'atténuer ça, ce sont des relais politiques. Ce sont des fondations qui, de par même leur nature, ont des allégeances politiques. Puis, dans le cas de la Fondation Trudeau, ben là, c'est sûr que plus on épluche, plus les journaux anglophones puis les journalistes anglophones commencent à scruter tout ça, ben là on se rend compte que finalement, attention, oui, il y a du financement, on donne beaucoup en salaire, on réussit pas finalement à dépenser tout l'argent qui devrait être dévolu à des par exemple là, à des causes ou à des postes autres que les salaires, puis ben là plus on va commencer à éplucher ça, ben on va se rendre compte que finalement, attention, il y a peut-être même non, n'allons pas dire quand même des malversations, on peut pas aller jusque là, mais toujours est-il que quand une organisation comme ça reçoit un don de pays étranger par le relais d'une personne dont on sait, par exemple, moi j'ai beaucoup écouté Jean-François Lépine par rapport à ça, qui connaît bien la Chine, puis quand il disait, ben attention, les personnes qui étaient autour des universités francophones à Montréal...
C'est ça, les dons de l'Université de Montréal cette semaine.
Oui, c'est la même chose. Puis là, on se dit, mais ces gens-là étaient là avec de l'argent qui était finalement comme en deuxième main, mais ça venait du gouvernement chinois, puis il essaie de s'acheter des faveurs, sinon, en tout cas, des yeux puis des oreilles à l'intérieur de fondations qui, un jour, pourront peut-être servir leurs intérêts, du moins les gens qui gravitent. Fait c'est très, très intéressant puis important ce qui se passe là. Ouais. Et j'espère qu'à un moment donné, par exemple, le travail de journalistes d'enquête dans le Canada anglais qui font de l'excellent travail, ce serait bien qu'à un moment donné, on voit un peu de ça soit traduit ou à tout moins qu'on y réfère un peu plus, parce que ça devrait nous inquiéter et nous intéresser au plus grand point, ça.
Guillaume, sur sujet?
Ouais, mais faut pas oublier que cette fondation-là a eu un don du gouvernement fédéral de 125 millions. Donc, je veux dire, c'est tout à fait justifié à ce moment-là. Il y a tellement d'argent public là-dedans que c'est absolument justifié. Idéalement, la vérificatrice générale aurait dû enquêter. Là, je pense que c'est pour des motifs techniques, elle a choisi de pas le faire. Là, mais vraiment, il faut absolument, c'est clairement, je veux dire, c'est clairement de l'argent public là à la tonne. Je pense qu'ils n'ont même pas touché à leur 125 millions. Ouais. Juste les intérêts permettent d'avoir des gros salaires pour donner des bourses. Ouais. Et on sait dans le monde universitaire à quel point c'est influent que cette fondation-là, ça choisit des boursiers, ça leur fait participer à toutes sortes de conférences pan-canadiennes, ça leur montre des dossiers qui leur permettent de devenir professeur, ensuite titulaire de chaire. Puis là, ça a un immense impact sur ce qu'on peut appeler la guerre des idées, donc sur tout ce qui est le monde intellectuel qui finit par avoir un impact sur le monde politique. Donc, effectivement, c'est un dossier à suivre de très, très près et ne jamais oublier qu'il y a eu 125 millions d'argent des contribuables mis là-dedans, ce qui justifie pleinement que l'enquête et toute la lumière soit faite sur cette fondation.
Est-ce que vous attendez que le passage du frère de Justin Trudeau, donc Alexandre Trudeau, le réalisateur qui est aussi qui est membre du conseil d'administration de cette fondation, puisse amener quelque chose? On a pu voir le président du comité d'enquête, le vice-président du comité d'enquête conservateur se féliciter qu'il accepte ce passage, mais après, on ne sait pas comment le passage se fera, qu'est-ce qui sera dit, mais est-ce que vous avez confiance que ça puisse participer à faire la lumière sur ces différentes affaires? Steve?
J'en doute. Je doute qu'on apprenne beaucoup de ça, pas plus qu'on en a appris par un passage dans un dossier analogue, mais pas exactement le même, de Cathy Telford. Il y a eu de la destruction, puis on a tout fait pour essayer d'empêcher ce témoignage-là. Puis une fois que j'en ai pris connaissance, puis je regardais ça, je me disais, mais on a fait tout ça pour ça. Mais c'est la nature même de ce type de d'enquête ou de commission-là. C'est tellement facile pour une personne de se défiler, puis arriver là, puis finalement dire très peu. Moi, je m'attends pas à ce qu'il y ait de grandes révélations-là. Le plus important pour moi là-dedans, c'est le travail qui va se faire, par exemple, aux abords de ça, par exemple le travail journalistique, les entrevues que des gens, puis à un moment donné aussi là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont associés à la Fondation Trudeau. Je suis pas certain moi que il y en a là-dedans là, certains que je connais par exemple du milieu universitaire, puis ils se disent ben je veux bien là, mais c'est pas quand ton nom est associé à ça que t'es là de bonne foi. C'est tout à fait, il y a aucun problème avec ça. Mais que finalement tu dis, mais attention, c'est pas tout le monde. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont associés à cette fondation là. Par exemple, Chantal Hébert, la journaliste, elle a été très très critique de ce qui se passait là. Mais à un moment donné, il y a peut-être des gens qui vont dire, ben écoutez là, moi je vais prendre un pas de recul. Puis ça serait dommageable pour une fondation comme celle-là, tout comme ça serait dommageable pour n'importe quelle fondation crédible, politique, parce que ça demeure crédible, la Fondation Trudeau, de par son action, puis quand on prend en compte, puis qu'on sait c'est quoi le but de la Fondation Trudeau, ben on se dit, c'est correct que ça existe, comme l'IRAI, comme la Fondation Manning, c'est correct. Mais là, on s'en va dans quelque chose où il y a des ondes d'ombre qui peut-être en feront douter quelques-uns. Puis ça pourrait être dommageable pour la Fondation.
Parlons de notre troisième sujet, le coup politique du troisième lien, le cynisme qui a pu arriver avec les différentes réactions, les différents retours en arrière. Tout, on en parle depuis la semaine dernière et depuis l'annonce de la transformation du tunnel autoroutier en simplement un tunnel pour les transports en commun et potentiellement peut-être juste rien. Un sondage dans Le Soleil ce matin est sorti, indiquant que 50% des gens de la région de Québec qui ont voté pour la CAQ ne voteraient pas pour la CAQ si des élections avaient lieu. Et on passe à « Je n'ai pas voté pour la CAQ » où c'est à 84% ne voteraient toujours pas pour la CAQ. Donc ça, à quel point les électeurs ont l'impression de s'être fait berner, alimentant encore plus la question du cynisme en politique qui commence à déconnecter de la population. Avant de passer vraiment sur ces questions de réaction, qu'est-ce que tu penses de ce sondage, Guillaume?
Ben en fait, c'est un sondage, on dit toujours qu'un sondage, c'est une photo, c'est un instantané à un moment précis, et là, je pense que c'est encore plus vrai que d'habitude, c'est-à-dire que, voilà, donc je pense qu'ils ont fait exprès les firmes de sondage des médias, puis c'est très correct, donc ils ont pas attendu au plein cœur de cette controverse-là, quand les gens de Lévis et des régions et de la Beauce autour étaient sous le choc, on est parti en sondage, donc voilà, donc il y a un effet de, voilà, c'est comme voulu, c'est monté, en même temps, voilà, c'est très correct, ils font bien leur travail, donc je pense que Il va falloir attendre le premier sondage national, parce qu'à la limite, si ça a un effet sur 2-3 comtés de la Rive-Sud de Québec, ben finalement, ça change rien, c'est puisque ça. Pour la CAQ, qui a une large majorité, ça changerait pratiquement rien. Par contre, un sondage national nous dirait à qui ça profite. Donc, est-ce que ça va vraiment profiter à Éric Duhaime? Puis si oui, ben à ce moment-là, tout ce que ça fait, c'est que ça renforce la division de l'opposition.
Ouais.
Parce que la grande force de la CAQ, c'est d'avoir une division de l'opposition en 4. Et là, il y avait peut-être Duhaime, allait peut-être presque disparaître. On a vu le dernier sondage, il était à 8%. Donc, il était vraiment, puis il n'y a toujours pas de député. Donc, là, on pouvait passer de 4 à 3 partis d'opposition. Puis là, il suffit qu'un des trois soit un peu plus fort que les autres pour qu'il y ait une alternative à la CAQ. Or, si l'effet de cette crise-là, c'est oui d'affaiblir la CAQ, mais de renforcer dans les partis d'opposition celui qui était le plus faible, et donc de renforcer globalement cette division d'opposition, je suis pas sûr que ça nuit nécessairement à la CAQ au bout du compte. Là.
Steve, sur cette question?
Ben c'est ça, c'est certain. On savait qu'on allait sonder. Ça, c'était inévitable. Puis, je veux dire, n'importe qui aurait pu prévoir, ça a affecté le vote. Mais tu sais, l'électorat n'a pas une mémoire très longue. Puis, souvenons-nous quand même que aussi il y a des partis, il y a des électorats qui sont résilients malgré tout. Qui aurait pu prédire qu'en 2012, après la commission Charbonneau, puis tout ce qui s'était passé, l'électorat libéral a tenu. Puis on a quand même donné 50 comtés à Jean Charest dans les pires des conditions. Donc, dans 3 ans, d'ici 3 ans et demi, là, on verra ce qui va se passer. Le défi, par contre, pour la CAQ, c'est d'être crédible sur ce qui va suivre. Puis là, jusqu'à maintenant, c'est des faux pas par-dessus faux pas. Puis de ce côté-là, en ce moment, la CAQ ne cède pas. Et quand je vois, par exemple, Desbonnaire un peu Bernard Drinville, puis je veux dire, tu sais, je te connais, Bernard, on a collaboré ensemble. Mais tu sais, je vois le Bernard Drinville, le politicien, celui qui des fois, va peut-être parler un petit peu trop vite, puis il va dire, on va le faire quand même, le troisième lien. Mais là, il s'emporte, parce que moi, je pense que le but de ce qu'on a entendu plus tôt cette semaine, la conférence de presse, une opération de communication dont le seul et unique mandat de cette conférence-là, c'était d'enterrer le troisième lien.
C'est ça.
Maintenant, c'est fait. On a sorti de notre chapeau comme ça, un petit tube, comme dit Luc Ferrandez, un petit tube là, qui est tout croche puis qui titube, mais tu sais, ça n'arrivera pas, ça.
Ouais.
Ça, on fera pas de tube, on fera pas rentrer un tunnelier
c'est
pour
pas
faire du transport
en
commun, ça arrivera pas.
C'est pas rentable trop cher.
De là, qu'est-ce qu'on va proposer? C'est là que la CAQ pourrait sauver les meubles ou peut-être durablement perdre des appuis.
Surtout au niveau des réactions, au niveau des bourdes, comme tu le disais, on a pu voir un peu François Legault en chambre, ou PSP l'UFPP qui le talonne sur ces différentes questions liées au troisième lien, sur la valeur de sa parole, et Legault n'avait que comme simple réponse que s'il n'y avait pas eu un vol de documents, il n'aurait pas été élu. Est-ce que c'est ce genre de réponse qui s'est multiplié? On a pu voir aussi Pierre Fitzgibbon dans l'étude des budgets esquiver au maximum différentes réponses dans des questions liées aux dépenses de troisième lien, à aussi d'autres dépenses liées à McKinsey et les cabinets de conseil. Quand on voit cette accumulation de bourdes en ce moment et l'attente d'un sondage national, est-ce que c'est une séquence qui peut faire mal à l'instant T, mais comme on le dit, 3 ans et demi, c'est très long, et la mémoire de l'électeur est encore plus courte, Guillaume?
Oui, effectivement, c'est difficile de prévoir les effets de tout ça à long terme, particulièrement à moyen terme, 3 ans et demi, là, qui est la date où il y aura des élections, puisqu'on est à élection à date fixe. Mais en tout cas, c'est peut-être le début de la fin de la lune de miel, là, qui aura duré 4 ans et demi, puis la fin du téflon aussi. Hein, oui. On avait l'impression que la CAQ, oui, il y a eu d'autres bourdes avant, il y a eu d'autres épisodes où c'était moins facile. On avait l'impression que finalement, ça importait peu, qu'il était toujours très, très fort dans les sondages. Est-ce que c'est le début de la fin de ça, peut-être. Jean Charest, ça a été très long avant qu'il soit fait. Ben, en fait, il a connu rapidement des difficultés après 2003, minoritaire en 2007, mais après ça, il a été fort, puis il a fallu attendre le début des années 2010 là, pour que vraiment l'opposition puisse véritablement le mettre dans les câbles. Alors là, on n'en est pas là. Les oppositions, comme je le disais, sont trop divisées. La CAQ reste forte, particulièrement en communication, donc on peut s'attendre à ce qu'il revienne, qu'il y ait d'autres dossiers dans l'actualité. Surtout si les questions de langue, d'identité, de laïcité reviennent à l'avant de la scène, là, ça peut être à l'avantage de la CAQ de revenir à ce qui les rend plus populaires, à des dossiers de développement économique. Donc, faut pas les donner pour battus, loin de là.
Steve, mais quand on prend en compte toute cette accumulation un peu de promesses brisées de la CAQ depuis sa première élection il y a 4 ans et demi, est-ce que tu penses que ce genre de retour en arrière, ce genre de « on cède sur ce sujet, on abandonne », ça diminue encore plus ce que les citoyens ressentent au niveau de la valeur de la parole politique, alimentant le cynisme, alimentant aussi la surpolarisation que ça peut amener, et juste diminuant la valeur de la parole politique dans le cadre de nos débats démocratiques?
Ben oui, le cynisme, oui. Ce qui s'est passé avec le troisième lien, ça, c'est un cynisme. Je veux dire, on a là un vecteur de cynisme qui peut coller. Mais le teflon de la CAQ, c'est la faiblesse de l'opposition, comme le disait Guillaume. Ça, ce teflon-là, il n'est pas affecté encore parce que je ne vois pas d'issue où, par exemple, il pourrait y avoir un changement dans le fractionnement de l'opposition. Ouais. Maintenant, par rapport au cynisme, il faut faire très attention même à son propre électorat. Ouais. Ce dont on parle le moins, c'est que suite à ce qui s'est passé avec le troisième lien, un comté caquiste mais très conservateur comme Beauce-Nord, là, tout à coup, on savait même pas que ça existait, mais il y a des instances. C'est parce que c'est François Legault qui nomme les candidats, puis c'est le parti d'un seul homme. Mais il y a aussi quand même dans les comtés, dans le comté, tout ça. Puis l'association de comtés de Beauce-Nord, ils se sont rassemblés. Puis si on écoute les médias locaux, si on regarde un peu ce qui s'écrit et ce qui se dit par des acteurs locaux, par exemple, je me souviens plus du monsieur de la Chambre de commerce, mais qui disait, ben écoutez, il y a quand même une alternative. Puis là, ben on se disait, dans un comté comme ça, le Parti conservateur du Québec est très fort. Le candidat qui avait été là, ben c'est un candidat qui était quand même apprécié. Puis là, tout à coup, il y a des gens qui disent, ben voyez-vous, si ça fonctionne pas avec la CAQ, on a une alternative. Puis quand les acteurs locaux commencent à dire ça, ben là, ça peut devenir quand même, là, ça peut faire un peu mal. Et on l'avait vu, ça, déjà, de toute façon, à la fin, juste avant la dernière élection provinciale. On l'avait vu dans un comté comme Gatineau, l'ancien comté de la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée. On l'a vu, ça, que tous les gens là, locaux du comté, toute l'association locale du comté, qui était conservatrice avant, qui était partie avec Robert Bussière, qui était un ancien président du Parti libéral, qui était viré du comté, qui était viré avec le Parti libéral, avec la CAQ, ben là, ces gens-là, ils peuvent revenir. Ouais. C'est ça le problème avec la CAQ, c'est que eux, là, leur électorat puis leur militant, t'en as plein là-dedans qui ont des alternatives, qui pourraient décider, ben nous, on vient du Parti libéral, ça fait plus, on y va ou on va au Parti conservateur, puis peut-être même, sait-on jamais, aussi avec les dossiers identitaires vers le PQ. Fait qu'il n'y a jamais eu comme une espèce de cimentation de ce parti-là, parce que c'est le parti d'un homme. Fait que si jamais ça se met vraiment à craquer tout ça, ben ça pourrait aussi dégringoler très vite, parce qu'il n'y a pas de ciment dans ce parti-là, sinon que la fragmentation de l'opposition.
Guillaume, est-ce que tu partages ça sur un aspect court-long terme?
Oui, effectivement, là, c'est de voir si effectivement, est-ce qu'il y a d'autres choses, le fameux ciment, mon passé, c'est intéressant. Est-ce que est-ce que c'est ça le fait d'avoir le pouvoir? Auquel cas, si les sondages sont moins bons, ça se peut que le ciment s'effrite rapidement. Mais sinon, est-ce que cette alliance-là entre la priorité au développement économique, qui était avant l'apanage du Parti libéral, qui est récupéré par la CAQ, et le nationalisme, qui était avant les cartes maîtresses du PQ, qui est maintenant en grande partie reprise par la CAQ. Est-ce que ça, c'est que de l'opportunisme, les gens utilisent ça, la CAQ, pour finalement être au pouvoir, ou est-ce qu'ils croient vraiment? Moi, j'ai tendance à penser qu'en politique, habituellement, chez la plupart des gens, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on veut être là pour nos convictions, on est là pour les bonnes raisons, puis on défend les idées dans lesquelles on croit. Puis accessoirement, on veut le faire dans un contexte où on peut vraiment les mettre en œuvre, puis si ça vient avec des postes payants ou prestigieux, ben les gens sont bien partants pour être ministre plutôt que député de l'opposition. Donc, je pense que je pense qu'il est là, ce ciment-là, mais effectivement, il est peut-être moins solide que le ciment de la souveraineté chez les péquistes, par exemple.
Merci beaucoup, Guillaume.